diffusée à telle ou telle époque à l'échelle universelle, irradiée dans toute la culture humaine, d'où les convergences que nous pouvons retrouver a posteriori au niveau de l'origine de toutes les traditions, hein, à ce niveau très, très général. Simplement vous donner une précision. Il y a préalablement à l'essentiel du message spécifique de la Torah deux dimensions de la sagesse dont la Torah, dans le code, a déjà été élaborée au niveau de Shem et Hever. Shem a restitué la dimension des rapports avec Dieu et Hever des rapports avec autrui. Voyez le mot de Shem, le nom. Et Hever, c'est le premier homme de cette lignée, après le meurtre de Caïn et Abel, pour lequel la Torah emploie le mot de frère. Hever avait la capacité d'être frère. Vous vous souvenez du verset Hever, achi yefet agadol. Oui, ben adam la makom, ben adam la haver. Alors peut commencer la lignée, à partir d'Abraham, de l'effort de la sainteté, ben adam le atzmo. Vous trouvez là les trois grandes dimensions des principes de la Torah. C'est-à-dire, Shem a commencé le tikkun des rapports entre la créature et le créateur, ben adam la makom, Hever, entre la créature et l'autre créature, entre chacun et autrui, Hever, achi, tout de suite, Hever, frère d'eux. Vous verrez le verset. Et à partir d'Abraham va commencer le tikkun de la sainteté, des rapports entre l'homme et l'identité humaine en soi, qui est le principe important qui finalement donnera à Jacob le nom d'Israël. Kedoshim Tiyu, Kikadoshani, c'est la récapitulation du projet de la Torah. La sainteté se définit surtout dans l'ordre des rapports entre chacun et l'identité humaine en soi. Les deux autres dimensions s'appellent Tzadik Chassid, mais Kadosh, c'est Ben Adam Le'ad. Les trois patriarches en dominante avaient tel ou tel Ida, mais c'est surtout au niveau de Yaakov que le terme de sainteté apparaît. Et Kedosh Yaakov. Un exemple. Vous avez les trois premières brachot du Shmoneh Esrei. La première s'appelle Avot, Magen Abraham. Et la dominante, c'est Dieu d'Abraham. La deuxième s'appelle Gvurot, Ata Gibor. La dominante, c'est la Mida de Yitzhak, Gvura. La troisième s'appelle Kedushot, Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, Kedoshim Becholyom. Et la dominante, c'est Kedosh Yaakov. La dominante, c'est la Kedusha est reliée surtout à Yaakov. C'est clair? Et voilà donc l'importance de Hever comme transition entre l'identité humaine à l'origine, le premier homme, Adam Arishon, l'effort de transmission du véhicule anthropologique du Einyan HaElohi qui traverse l'histoire de l'humanité, mais dans une lignée particulière. Elle aurait pu être autre, alors ce serait cet autre qui aurait amené à Israël. Oui, il faudrait voir cela un peu a posteriori de l'histoire. Quand nous disons par exemple, Israël étant arrivé au Sinaï, a reçu la Torah. Alors, essayons d'inverser. Un rendez-vous avait été donné à l'homme, rendez-vous au Sinaï. Et ceux qui sont arrivés au Sinaï recevant la Torah sont appelés Israël. Peut-être je vais un peu développer ce midrash que je viens presque d'inventer. Je ne vais jamais faire ça, inventer un midrash. Vous vous rappelez de ça, je pense que je vous l'ai cité une fois, peut-être l'année dernière. C'est un midrash qui me plaît beaucoup. Il n'existe pas, ne cherchez pas la source. Si vous allez l'écrire, il y aura une source, alors n'écrivez pas. Alors voilà, quand Dieu a créé le premier homme, il lui a dit, si tu es sage, tu auras une image, à l'image de Dieu. Vous vous rappelez, c'est les Melokim. Et rendez-vous au Sinaï. Au Sinaï, les Juifs sont arrivés, les Hébreux, les Juifs sont arrivés. Il fallait le faire. Hein. Il y avait un rendez-vous donné au premier homme, au Sinaï. Et qui arrive? Israël. Dieu a dû se dire, ils ont du courage. Alors il dit, bon, vous êtes arrivés, mais voilà. Tu seras sage et tu n'auras pas d'image. Ça, c'est le Sinaï. Prochain rendez-vous à Jérusalem. Et il y a une partie des Juifs qui arrivent au rendez-vous. Ils ont du courage. Hein. Et voilà comment ça se passe. C'est-à-dire, qui va être dénommé porteur du Einyan HaElohi? Alors ne croyez pas qu'il y a une fatalité de prédestination a priori. C'est celui qui se fait lui-même le véhicule du Einyan HaElohi qui est appelé Israël. C'est clair? Bien, c'est clair. Alors, Gdol Amidot, plus important encore que tout cela, Hu Hikir Gam et Noach. Dieu a reconnu dans cette recherche du partenaire de l'Alliance, même Noach, Gam et Noach. On pourrait ouvrir une très longue parenthèse. Pourquoi ce Gam, même Noach? Vous vous souvenez de cela, okay? Noach n'a été sauvé, en fin de compte, et Noach, c'est un très grand moment dans cet effort des engendrements. Noach est tzaddik, dit le texte. Mais il n'a été sauvé, en fin de compte, que parce qu'il portait en lui Abraham. Est-ce que c'est nécessaire d'analyser plus là, ça vous est familier, okay? Je vous rappelle simplement le verset. Ele toldot Noach, Noach it tzaddik, haya bedorotav, et haelokim italech Noach. Noach était un grand juif. Je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse. Il y a un Midrash qui nous dit que Noach a traversé trois générations de nature différente du point de vue du problème moral, et que dans les trois, il pouvait être appelé juste, tzaddik. Je reprends le verset. Voici les engendrements de Noach. Ele toldot Noach. Noach ish tzaddik, haya bedorotav. Noach, qui était un homme juste selon ses générations. Combien de générations? Trois. Nous allons voir lesquelles. Et à Elohim, il fallait Noach. Noach se conduisait en compagnie de Dieu. Et donc un tzaddik. Pas suffisamment pour être celui à partir duquel Inyana Eloki, on nous parle, Judas Lévi, va se dévoiler dans l'histoire. Il faudra attendre Abraham, mais suffisamment pour que un sursis soit donné à travers lui à l'identité humaine en général. Le sursis du rescapé du déluge. C'est là que nous avons la définition des trois générations. Noach a vécu la génération d'avant le déluge, de pendant le déluge et d'après le déluge. Noach, Noach, Noach. Vous vous rappelez, il y a trois fois le mot Noach dans le verset. C'était trois circonstances de la société humaine radicalement différentes qui formellement se retrouvent à beaucoup d'époques, la nôtre, avant la Shoah, pendant la Shoah, après la Shoah. Et être tzaddik avant le déluge, être tzaddik pendant le déluge, être tzaddik après le déluge, sont trois indices de la capacité d'être sadique différents. Et les trois, Noach les a passé l'examen de passage, si je dis, a passé l'épreuve. Donc c'était un grand sadique. Encore une fois, pas suffisamment pour que se dévoile à travers lui le Haïnian Eloki, il faudra attendre Abraham. Mais quand même, la Torah a tenu, nous dit Judas Lévi, de nous raconter l'histoire de Noach, parce qu'elle est une étape très importante et qui va donner son nom aux tzadikim à l'échelle universelle, en dehors d'Israël. Il y a aussi des tzadikim, on les appelle les bnei Noach, les descendants de Noach. Vous voyez, et tous les hommes s'appelleront bnei Adam. Seuls les tzadikim sont appelés bnei Noach. Et seuls les bnei Israël sont appelés bnei Israël. Et puis, d'époque en époque, on fait un recensement d'état civil et on se compte qui est d'Israël, qui est devenu Noach, qui est devenu Adam. C'est clair? Et alors, ce que je voulais vous signaler, c'est cela. Normalement, on pourrait s'attendre à ce que la paracha, la sidra, qui commence par l'histoire de Noach, s'appelle Toladot, puisque c'est la première fois que le mot important du verset est Toladot. Non, on appelle cette sidra Noach et pas Toladot. Il faudra attendre les engendrements à partir d'Abraham pour que nous ayons une sidra qui s'appelle Toladot. Vous comprenez de quoi il s'agit? Quelle est la sidra qui s'appelle Toladot? Elle est Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham au lit de Yitzhak. Et voici les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham. C'est Abraham qui a engendré Isaac. Regardez le paradoxe apparent. On s'attend à l'énumération des fils d'Isaac. On nous reprend avec Abraham. Parce que c'est Abraham qui commence les engendrements. C'est vraiment Sarah d'ailleurs. Mais qui commence les engendrements, l'histoire qui s'appelle Toladot, le dévoilement du Inyana Eloki dans les lignées humaines. Alors je reviens au verset de Noach. Parce que finalement, Noach n'est pas un principe de ces mutations d'identité que la Torah nomme dans son vocabulaire les engendrements. Reprenons le verset. Elle est Toldot Noach, Noach. Okay? Et voici les engendrements de Noach, Noach. Vous avez compris la différence? Reprenez le verset. Elle est Toldot Noach, Noach, tzaddik. Alors lisons un peu autrement, sans changer l'ordre, même pas l'ordre des mots. Elle est Toldot Noach, Noach. Noach n'engendre que Noach. Mais même à ce niveau de multiplication des Bnei Noach, c'est une identité de tzaddik. Les engendrements ne passent pas par là, mais c'est tzaddik. Tandis que les engendrements vont émerger, recommencer à travers l'identité Abraham. Abraham engendre Isaac. Isaac engendre Jacob. À travers mille difficultés, sélection d'identité, rivalité d'identité, la lignée d'Ishmaël, la lignée d'Esav. En fin de compte, à la fin de l'histoire, Jacob arrive au bout de l'effort des engendrements, et c'est Jacob qui est nommé Israël. C'est cette histoire que la Torah nous raconte et que nous vivons presque déjà jusqu'au bout. Ça fait à peu près 34 ans que le peuple juif a été nommé Israël. Jacob a reçu son nom. Et donc, ici, Judas Lévi a donc indiqué l'étape de Noar, qui, a Inyana Eloki, car nous sommes à la quatrième ligne, qui a Inyana Eloki, car le Inyana Eloki nimshach etzla me'avot avot el benemani. En ce temps-là, il y a, semble-t-il, un enjambement des générations, ni avot avot, de père de père, aux enfants. C'est clair? Ça veut dire qu'il peut y avoir enjambement de générations. Mais il arrive donc qu'un ressourcement se fasse en enjambant même la génération des pères pour aller jusqu'à au ressourcement dans l'indifférencié le plus antérieur. Mais de toutes les façons, avot avot, albani. El benebani, et jusqu'au fils des fils. Car haya Abraham, segulat ever vetalmido. Ainsi, Abraham était la spécificité de Ever et son disciple. Bien que son père, au niveau des engendrements, était Terah, mais son père, vraiment, était un des ancêtres de Terah, Ever. C'est suffisamment clair? Ve'alken nikra Ivri. Et c'est pourquoi Abraham a été nommé Ivri, l'hébreu. Enfin, l'hébreu, c'est donc traduction du mot de ivri. L'ivrite, il faudrait dire. Vous avez les références des versets en bas de page, dans vos textes. Si vous voulez revoir les références des versets. Abraham à ivri, c'est déjà, je pense, le chapitre 14 de la Genèse, vérifiez. C'est trop petit pour que je vois, mais ça doit être le chapitre 14. C'est ça? On ne vous donne pas le chapitre? Je vais vous dire tout de suite. Pardon ? Chapitre ? Où est-ce que vous avez ça ? La note 6. Non, on vous envoie à la note 49. Et vous avez une note dans une autre page. Mais je pense que c'est le chapitre 14. Ça veut dire Abraham, nommé encore Abraham et pas déjà Abraham, est appelé Abraham Haïvri. Je vous donnerai trois définitions, nous l'avons vu déjà à un des séminaires, trois définitions du mot Ivri. Bien, le premier, c'est par la langue, les hommes qui parlent la langue de Ever, Ivri. Le deuxième, c'est par la géographie. Mais Ever, la Nahar, ceux qui viennent de l'autre côté du fleuve, l'autre côté, Ever, l'au-delà, l'en-deçà, suivant le côté où on se trouve. La Midrash explique ça en disant, si on veut savoir qui est Abraham, il faut savoir qu'Abraham est d'un côté du monde et le monde entier de l'autre côté. Ça vous dit quelque chose, ça? Ah, Ivri. Et je veux bien être du côté d'Abraham. La troisième étymologie a été une fois citée dans un des livres par Shmuel Trigano dans un de ses livres. Une étymologie très importante que dans le Zohar. C'est la racine qui donne le même mot que Ouba, qui signifie l'embryon. Ouba, l'embryon. C'est-à-dire l'être en embryon. Ça veut dire quoi cela? Je pense que c'est clair. Et tout se passe qu'à chaque étape du développement des civilisations, le peuple d'Israël se trouve comme un Ouba bim'aymo, comme un embryon au sein de sa mère, l'humanité. Un jour arrive le temps de la naissance. On appelle ça la sortie d'Égypte. Bon, c'est tout ce thème de l'accouchement et de toutes les circonstances possibles d'un accouchement. Ou bien l'accouchement est sans douleur, ou bien il est au forceps. Beat Hazaka ou Bizroar Netouya. Il y a toutes les possibilités. Et l'histoire dévoile qu'en général, c'est une césarienne. et que aucune allusion à Jules César. Et que parfois la mère meurt en couche. Rappelez-vous qu'à la sortie d'Égypte, l'Égypte, il s'agissait de l'Égypte de Pharaon, a disparu. Il arrive qu'une civilisation donne naissance à son Israël, mais qu'elle meurt en couche. Et elle se donne tous les moyens pour. Bon, voilà donc l'image qui est employée à travers Oubav, le Ivri, celui qui est dans la manière d'être embryonnaire, en gestation dans l'histoire, et qui un jour se dévoile en sortant d'Égypte. Alors, le Alkenikra Ivri, vous voyez, l'insistance de Judas Lévi, on peut l'avoir dans ces trois dimensions. Okay. Attendez, rappelez-moi quand j'ai employé le... Ah, j'ai compris. Voilà ce que je veux dire. Donc, très bien, c'est une question qui est à sa place. On pourrait s'attendre à ce que le progrès, disons la progression du dévoilement du Aïn Aloki se fasse de génération en génération, un après l'autre. Il peut arriver, nous dit Judas Lévi, et le récit généalogique de la Torah le confirme, qu'il y ait des temps morts, qu'il faille sauter plusieurs générations. C'est clair. Par exemple, de Hever à Abraham, il y a au moins 3 ou 4 générations. Terach est là, Terach est très important, on va nous le citer, Terach Abi Abraham. Mais il n'était qu'un de ces moments récessifs, un de ces moments neutres, si vous voulez. Et ça veut dire que, très souvent, dans la recherche du ressourcement, eh bien, il faut remonter plus haut que l'étape immédiatement antérieure. Parce que l'étape immédiatement antérieure est un trou de mémoire. La mémoire est là, mais elle a des trous. Alors il faut remonter plus. Ce que je voulais ajouter, c'est que le ressourcement n'est authentique, je crois que j'en ai parlé hier matin, le ressourcement n'est authentique que lorsqu'il se fait à un niveau le plus indifférent. Parce que dans le mouvement évolutif, on nous l'a rappelé hier soir, dans la conférence d'Axon, dans le mouvement évolutif, chaque étape est plus différenciée que la précédente. Et donc, l'immédiatement précédent est très différencié, trop différencié. Trop différencié dans le passé, ça veut dire archaïque. L'antérieur, c'est beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus ancien. Est-ce que c'est clair? Vous me souvenez si c'est hier dont j'ai parlé de ça ou avant-hier ailleurs. Pardon?
Le premier, c'est bon. Vous aviez évoqué le thème de la matière
première. Oui, exactement. Le véhicule de l'identité, lorsqu'il est trop spécialisé, trop différencié, en langage juif, on appelle ça assimilé, et donc plus assimilable. Est-ce que c'est clair?
Il n'est pas capable de l'évolution.
Exactement. L'évolution est bloquée. C'est trop spécialisé. C'est un peu la différence de l'identité des nations par rapport à l'identité d'Israël. L'identité d'Israël garde cette capacité de l'indifférencier. Et elle peut devenir n'importe quelle nation. Ça s'appelle la civilisation. Et alors que les nations sont, chacune d'entre elles, une identité très spécifique. Et donc, une espèce de, quoi dire, d'arrêt de l'évolution, en tout cas à l'échelle, que le type est là, le modèle est là, définitif. Par un acte simple, comme on vous a dit bien sûr. Mais définitif. Et effectivement, lorsqu'un juif s'assimile, alors il devient l'homme du paysage, le paysan, le païen. C'est ça le mot païen. Oved, avoda, zara. Bahma. Si tu veux, d'ailleurs, ça rejoint un peu ta question de hier matin à la fin, que nous reviendrons tout à l'heure. Mais je vais donner l'exemple du livre de Ruth. Je ne sais pas si nous l'aurions étudié ensemble, mais je le reprends. Il y a deux tentatives de perpétuation des engendrements des Toladot après Jacob. Après Jacob, il y a une impasse. Parce que voilà, Jacob devient Israël, c'est fini. En principe, c'est la fin des temps. En principe, c'est le jugement dernier. Une lignée humaine est devenue Israël, on passe au monde à venir, à un autre monde. Non, l'histoire continue dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que le Créateur est le Créateur unique, à l'échelle de l'universel. Regardez le rite des engendrements d'Israël. Abraham, Isaac, Jacob, tout de suite. S'il y a parmi vous des musiciens, vous savez que c'est les trois premiers temps qui donnent la ligne mélodique. Quand on frappe à la porte, c'est un des trois. Et après, on rentre. Donc, Abraham, Isaac, Jacob, tout de suite. Et puis voilà que le quatrième patriarche, on attend depuis 4000 ans. Qui on attend? Les autres. On n'attend pas les juifs, on attend les autres. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il s'agit d'un monothéisme à l'échelle universelle. Le créateur est le créateur de tous. Une avant-garde qui est allée très vite, Abraham, Isaac, Jacob. Et elle attend, ça c'est la descendance de Jacob, Israël, les Bnei Israël, elle attend le Falaparousie, plus que ça. Elle attend l'avènement, okay. Elle attend les autres. Et d'ailleurs, dans cette histoire, qui est défavorisé, qui est privilégié? C'est bien sûr les goïms qui sont privilégiés, puisque c'est eux qu'on attend. Et Israël qui est défavorisé, parce que c'est lui qui s'assimile. Vous avez compris le problème? Il y a une seule assimilation cachère, étymologiquement, c'est l'assimilation. À part cela, la méthode assimile. Et ça, c'est la mise à l'abri. Et puis ça, c'est très clair. On se demande pourquoi il faut le rappeler. Mais, il y a, après Jacob, Israël, deux tentatives différentes de nature. Celle qu'on appellera la lignée de Joseph, qui cherche à continuer les toladot en cherchant femme à l'extérieur. Ce qui tombe, la femme de Potiphar. Vous vous rappelez de cette histoire. Et la Torah nous raconte très abondamment cet échec. Toujours tentative reprise. Et le juif, génial, capable de rêve, vous rappelez, et surtout d'être ministre des finances de Pharaon, ou conseiller économique, rencontre une femme de Potiphar qui lui dit « Tu es à moi ». En hébreu, ça se dit « Ata li ». Et alors, en français dans le texte, ça va jusque là. Ça, c'est la lignée de l'échec. Vous avez très bien compris. C'est la messianité du fils de Joseph. Et vous savez où ça a mené Matthieu, premier chapitre. La chrétienne, le fils de Joseph. Et puis, l'autre tentative, c'est par Judas, comme par hasard. Et là, c'est là que se situe ce problème de plus d'indifférence. Une première tentative avec Bathsheba. La lignée de Judas cherche le ressourcement dans l'antérieur, non pas dans l'extérieur. On va chercher dans Canaan s'il y a des tzadikim. On a trouvé la fille d'un tzadik qui s'appelle Shuar. Bathsheba était la femme de Judas. Vous vous rappelez? Avortement perpétuel, er, onan, shla, stérilité. C'est trop différencié. Le ressourcement, la greffe n'a pas pris. Le ressourcement n'a pas tenu. Stérilité. C'est clair? Les enfants ne veulent plus avoir d'enfants. Er, onan, toute cette histoire. La femme des enfants, vous rappelez, s'appelait Tamar. Alors Judas se dit, bon, les petits n'arrivent pas, je le ferai moi-même. Tzadeka mimeni. C'est par moi qu'elle deviendra Tzadeka. Vous vous rappelez du verset dans les psaumes, Tzadik, Katamar, et le Midrash intervient et nous dit qui était Tamar, la fille de Shem. Regardez bien dans le Midrash là-bas. Tamar était, d'après le Midrash, la fille de Shem, la souche la plus antérieure, la plus indifférenciée. Bathsheba était trop différenciée, la greffe n'a pas pris, archaïque. Le plus antérieur, c'est au fond le plus en avenir. Alors que l'immédiatement antérieur, c'est l'archaïque. Et ça, c'est une leçon pour la sociologie juive contemporaine. Quand vous avez, par exemple, des juifs, des jeunes juifs de France qui veulent se ressourcer dans le judaïsme et n'arrivent à se ressourcer qu'au XIIIe siècle de Hongrie, alors qu'il fallait remonter à la Judée en hébreu. Vous voyez ce qui se passe? J'ai pas dit dans quel yeshiva, mais tout, presque. C'est un peu ça, un peu ce problème. Alors bien sûr, on peut artificiellement ressusciter les cadavres, mais ils n'ont été vivants qu'en leur temps. Archaïque, c'est archaïque. Antérieur, c'est autre chose. Voilà, c'est le thème de l'indifférence. C'est clair?
C'est clair. Hein? Comprendre que Abraham a été salué sur le grand-père
du point de vue de l'âge. Alors regardez comment le Midrash a prévu votre question. Il dit qu'il a étudié de Bet Midrasho Shel Shem Be'er, à l'école de Shem Be'er. Avant, non, il c'était le plus petit des disciples de Shem Be'er. Un des petits enfants à travers qui c'est passé. Il a eu des ancêtres plus grands que lui dans la Torah de Shem Be'er. Shem Be'er eux-mêmes. Non, tous les patriarches de toutes les lignées, et d'ailleurs à l'échelle horizontale, dans chaque génération, étaient les grands initiés de ces époques, chez Shem et Ever. C'est le premier qui a été le père, et pas seulement le maître. C'est le premier qui a fondé un peuple. Vous en connaissez la différence. Et d'ailleurs, c'est son nom, Abraham. Les deux premières lettres de son nom, ça veut dire père. Voilà. Initié. Voilà. Oui, le chidouche que Judas Lévi a commencé à nous indiquer tout de suite, dès le début du chapitre, vous vous rappelez, c'est qu'à partir de Jacob, donc, et ça commence à Abraham, c'est une nation, c'est plus une école. C'est-à-dire, le véritable universel, c'est la société, et pas l'université. Elle est différente. Elle se revient. Pardon ? Oui, bien sûr. Et c'est le premier de la lignée privilégiée dont nous parlons, qui est dénommé frère de quelqu'un, en qui a ressurgi la capacité d'être frère. Ever, avant Abraham. Donc, si vous avez un Bréchit, je vous le donne tout de suite, la référence. Donnez-moi un livre de Bréchit, je vous le donne. C'est trop petit pour moi, ça. Vous n'avez pas un livre plus grand? Non, mais, je vais dire tout de suite quel est le verset. Vous l'avez lancé. C'est... Ça vient d'où, ça, de la base militaire de qui? Les plus grands. Voilà, ça doit être au chapitre 10, probablement. Voilà, vous avez le verset 21 du chapitre 10. Chapitre 10, verset 21. Et vous voyez que Ever est le premier homme à partir du moment où Abel a été tué par Caïn, que le texte de la Torah dénomme frère d'eux, capable d'être frère. C'est Ever. Vous vous rappelez de cet épisode lorsque Jacob va dans le pays de Laban? Vous vous rappelez de la scène où il rencontre Rachel auprès du puits. Et on nous raconte cela, une histoire extraordinaire, très profonde. Il s'enfuit de la colère et de la jalousie de son frère, Ésaü. Et le couple Ésaü-Jacob reproduit l'équation d'identité Caïn-Abel. Et on voit que c'est un échec, pas aussi grave que celui de Caïn-Abel. Ésaü n'arrive pas à supprimer Jacob, alors que Caïn avait réussi à supprimer Abel. Mais c'est la même équation qui nous est proposée. Et voilà que Jacob s'enfuit, va en exil, à cause de la jalousie de son frère Ésaü. Il arrive, nous dit le texte, devant un puits. Autour de ce puits, il y avait des bergers qui attendaient. Ils attendaient de se rassembler tous ensemble pour avoir la force, tous ensemble, de lever la pierre qui bouchait l'orifice du puits. Vous vous rappelez de ça? Parce que Ra'eben Gdola Alpi Aber. On peut décrypter ce thème de mille manières, mais le pshat suffit. Il y a un puits où les troupeaux viennent boire, mais il faut que tous les bergers soient ensemble en même temps pour avoir la force de lever la pierre. Lorsque, après je vous raconterai la suite, mais lorsque Jacob arrive à ce puits, il interpelle les bergers qui étaient là. Il leur dit, mais vous avez fini de faire paître les troupeaux? Non, le soleil est encore haut dans le ciel, le jour n'est pas fini. Ils disent, non, on attend les autres. Et alors, voilà comment il se présente à eux. Achai me'aim batem. Mes frères, d'où venez-vous? Ils répondent, Meharan, de Haran, la ville où habitait Laban. Ça, c'est le pshat. Achai me'aim batem, salutation, je ne sais pas comment on dit, comment vas-tu, mais regardez le premier mot. C'est un homme, Jacob, à travers qui va passer le devenir de la capacité de fraternité, qui sort de l'expérience la plus décevante. Son frère jumeau est un faux frère. Et la première chose qu'il dit lorsqu'il rencontre des bergers éventuels, mes frères. S'il était grand rabbin, il aurait dit tout de suite mes sœurs. Bon, il dit achai. Et ça, c'est le pshat. C'est étonnant. Vous voyez, la recherche en fraternité, comme on peut dire, recherche en paternité de l'identité de Jacob. C'est cette ligne d'identité qui se cherche dans ce récit. Qui sera capable d'être frère? À lui, la Torah sera révélée. Et Ever a été le premier dans la lignée des généalogies à qui il a été dit qu'il était capable d'être frère de son frère. Ever, Achi, Yefet, Agadol. Je continue l'histoire de Jacob très brièvement. Il y a une deuxième lecture de la même phrase. En réalité, ce n'est pas du tout « Bonjour, comment vas-tu ? C'est moi. » Non, ce n'est pas ça. Il s'adresse à ceux qui sont possiblement bergers en disant « Mes frères, il y a tout un programme. » Ça veut dire « Nous avons un seul problème à résoudre, la fraternité. Dieu donne tout à chacune des créatures, sauf une chose, la coexistence des créatures. Parce que par définition, les créatures sont rivales. C'est suffisamment clair. Le geste du créé, c'est que naissent deux frères jumeaux, mais c'est Caïn et Abel. Et qu'est-ce que Dieu attend? Une seule chose. Tout le reste, c'est lui qui donne tout. Une seule chose. L'amour des frères entre eux. L'amour des créatures entre eux. Et c'est ce que dit Jacob. Voilà notre problème. Achai, mes frères. Savoir se dire frère. Et pourquoi? Parce que Meaïn Atem. Vous venez du néant. Et pas d'où venez-vous? Aïn. Vous venez du néant. Parce que nous sommes créés, ex nihilo, alors nous avons un seul problème, la fraternité. Ils répondent non, ils répondent par un mythe. Nous venons de Haran, et ce n'est pas le nom de la ville. Nous venons de la colère. Haran, ça veut dire la colère, le péché originel. Vous voyez ce choc des deux civilisations. Non, notre problème, c'est que Dieu s'est mis en colère à l'origine, la magie. Et alors il faut adoucir le courroux de Dieu le Père, par des rites magiques. Et voilà ce que dit Jacob. Non, notre problème, c'est le problème moral. Ce n'est pas le problème magique. C'est clair? D'ailleurs, dans les mêmes mots, nous pouvons lire toute cette problématique, toute cette dialectique. Je vous rappelle le verset. Achai, me'ain atem. Et il répond, me'haram. Vous connaissez la suite. Et dès qu'ils disent me'haram, il dit comment, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas entendu parler de Laban, de la famille d'Abraham? Aïe d'Arte, met la bande Ben Betuel. Il dit oui, ça on connaît. L'histoire, la Bible, c'est écrit. Et qu'est-ce que demande Jacob? À Shalom, l'eau, y a-t-il la paix chez lui? Voilà le vrai problème. Il répond Shalom. À ce moment-là, Rachel arrive, et voyant Rachel, Jacob a tout seul la force de lever la pierre. Vous rappelez le récit? Et l'histoire d'Israël va commencer. Bon, alors on continue dans Judas Lévi. Vers. Raya Segula Shem, et Ever a porté en lui la Segula, la spécificité de Shem, la souche la plus indifférenciée, chez Raya Segula Noir, qui était lui-même la spécificité de Noir. Sheken Naflulo Birusha, et c'est pourquoi il a reçu dans son héritage Artsot Ha'klimim anochim, les zones tempérées. Je vous traduis littéralement, les terres, artsot, des climats tempérés. Le bassin méditerranéen. Le mot de ha'klim, d'ailleurs, est rentré dans l'hébreu moderne, à travers le grec, et ça veut dire mezegavir, le climat, ha'klim. Shebem tsa'itan, nimtsea eretz chemda. Dans le milieu desquels, les terres des zones tempérées, au milieu desquelles se trouve Eretz Chemda, la terre privilégiée, Eretz Knaan, qui est appelée par le récit biblique la terre de Canaan, et Eretz Anevoa, et qui est la terre de la prophétie. Il faudrait dire le terroir de la prophétie. C'est une image que Judas Lévi va rapidement employer dans les pages suivantes. De la même manière, il emploie l'image de la vigne. De la même manière que la segula, la spécificité de chaque vin, dépend du terroir où la vigne a été, plantée, de la même manière, les paysages distillent, chaque paysage distille une manière d'être homme. Et voilà que l'histoire donne témoignage. indépendamment du récit de la Bible, bien sûr, mais l'histoire donne témoignage qu'effectivement cette terre, qui est appelée la terre de Canaan, qui est donnée en promesse d'héritage aux descendants des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, produit la prophétie. Et on ne peut pas le nier. Il y a le consensus de nos rivaux, d'un côté la lignée chrétienne et de l'autre la lignée musulmane. C'était le début du Kuzari, vous vous rappelez ? Dès que l'on demande, mais vous parlez de la prophétie, mais de quoi s'agit-il ? La prophétie aux Hébreux, et qui concernait cette terre qu'ils nous revendiquent. Vous avez remarqué cela ? Ismaël et Esav, l'islam et la chrétienté, sont des ennemis cordiaux. Dès qu'il s'agit de Jérusalem, il y a la paix entre eux. Vous avez remarqué cela ? Eh bien, cette histoire, c'est celle que la Bible raconte. Quel est l'enjeu de la rivalité ? Eh bien, c'est pas seulement un petit arpent de terre, ça, le Canada, on l'avait fait cadeau à qui ? Aux Anglais. Non, c'est pas un petit arpent de terre. C'est la terre de la prophétie, qu'ils appellent la terre sainte, et que nous appelons notre pays. Très différent, vous voyez ? De nouveau, le passage à la sacristie. C'est très différent. Et d'un côté, il y a l'histoire, et de l'autre, il y a la sainteté de l'histoire. Mais la sainteté sans l'histoire, c'est plus l'histoire sainte, parce que plus l'histoire. Oui, si j'osais cet affreux jeu de mots, il y a les saints et les saufs. Donc, Eretz Hanevoa. Ach, Yefet, Yatsa et la Tsafon. Mais Japhet s'est dirigé en direction du nord. Au nord d'Eretz Israël, c'est la Grèce. Yafet s'est dirigé au nord, Vecham et la Darom, Echam au sud, l'Éthiopie. Enfin, on pourrait dire, oui, l'Éthiopie, qui est vraiment le pays de sagesse du sud, le pays de sagesse du nord étant la Grèce. Alors, Japhet, c'est le monde japhétique, donc on peut dire ça en ethnologie contemporaine, les Aryens, hein. Et comme vous savez, il y a des bons Aryens. Et puis, au sud, eh bien, c'était l'empire de... Finalement, on retrouve dans le livre d'Esther, mais Hodou et Hatkouch, l'Inde et l'Éthiopie. Usgulat Abraham, mi ben banav, aya Yitzhak. Or, la Ségoula, la spécificité d'Abraham, là, il y a une expression que je voudrais quand même, sur laquelle il faut porter attention. Parmi tous ces enfants d'Abraham était Yitzhak. On est un peu habitué, mais on ne sait pas souvent, mais c'est noté par la Bible, de penser qu'Abraham n'a eu que deux enfants, Ishmaël d'un côté et Yitzhak de l'autre, mais nous savons qu'il en a eu en réalité 15 lignées qui descendent d'Abraham, en particulier Midian. Midian, qui est important dans l'histoire de la Bible, puisque c'est à Midian que Moïse prendra femme, la fille de Jéthro, vous rappelez de tous ces épisodes. Effectivement, il y a d'autres lignées que Ishmaël ou Yitzhak, les autres enfants d'Abraham, et pas seulement Ishmaël ou Yitzhak. Mais parmi tous ces enfants, c'est à travers Yitzhak que la Ségoula a passé. Et donc, mutation d'identité entre Abraham et Isaac. A posteriori d'Isaac, Abraham est Abraham. De même que a posteriori de Jacob, Isaac est Yitzhak. Vous comprenez ce que je veux dire ? Tant que Isaac n'est pas là, alors Abraham pourrait n'être que le père d'Ishmaël. C'est pas le père d'Isaac, c'est le même homme, mais c'est pas la même Mida, c'est pas le même anthropos. A posteriori d'Isaac, il se dévoile qu'Abraham est bien Abraham, par le fait qu'Isaac est fils d'Abraham. C'est clair, pour l'étape suivante aussi, a posteriori de Jacob, Isaac est le père de Jacob. Il aurait pu n'être que le père d'Ésaü, c'est pas le même. Celui-là, on l'appellerait à la rigueur Jules Isaac, comme César. Et c'est Jacob qui recevra le nom d'Israël. C'est donc celui. Bien sûr, il y a eu Agar, la mère d'Ishmaël. Les premières thèses du Midrash, après la mort de Sarah, il a enfanté d'autres enfants d'une femme nommée Keturah. Mais deuxième thèse du Midrash, Keturah, c'est Agar elle-même repentie. Donc il y a de l'avenir dans les rapports franco-musulmans. Franco. Mais pas en France ici.
Hein.
Comment ?
C'est lié.
Oui.
En fait, ils ne sont pas tellement connus, alors ce serait d'ailleurs à
Je peux vous en citer une qui est très connue, c'est les Druzes. Oui. Les Druzes, c'est une autre lignée d'Abraham, dont la descendance, en fin de compte, a été convertie à l'islam par Ishmaël, mais qui, comme vous le savez, en grande partie, quelles que soient les péripéties, sont en réalité alliés d'Israël, et ont une secte particulière dans la religion musulmane. Et en particulier, ils reconnaissent comme prophète Jéthro. Ils ont une religion un peu secrète, je dois vous dire. Une religion très kabbaliste. Et si un jour vous avez le privilège d'étudier la religion druze, secrète, vous aurez des surprises si vous avez d'autre part étudié la Kabbalah.
Comme le Midian avait fait le tikkun de Caïn, alors quelle est la relation entre Abraham et...
Jéthro a fait le tikkun de Caïn, pas Midian. Jéthro, en partant. Un des tikkunim de Caïn. Très bien ça, un niveau. Jéthro. Et c'est pourquoi lorsque Moïse cherche un ersatz d'Israël, un autre peuple d'Israël, parce qu'il était déçu d'Israël dans la première partie de son histoire, vous vous rappelez, la première fois qu'il était en fuite d'Égypte, vous trouvez ce récit dans le deuxième chapitre et le troisième de l'Exode. Alors il ne va pas n'importe où, il va directement à Midian, il sait où il va. Y a-t-il un peuple disponible pour remplacer éventuellement Israël? Il va chercher Midian, et vous reverrez le texte, et il s'assied à côté du puits. Et où passe la fille de Jéthro. Et Rachid dit, il voulait faire comme son grand-père Jacob, fonder un peuple, et pas seulement avoir des élèves. Vous rappelez de ça? On pourrait d'ailleurs appeler ce puits Beersheba. Je ne sais pas Beersheba. Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on avance. Alors, nous sommes donc arrivés au point de départ représenté par Abraham. La suite, c'est Yitzhak parmi tous ses fils. Velachen, shalach Abraham et kol banav aherim minaaret amiuchedet haï. Et c'est pourquoi Abraham va renvoyer tous ses autres fils de cette terre-là, en ne la transmettant qu'à Isaac. Oui, c'est presque actuel. Enfin, les problèmes actuels. Et vous vous référez donc au verset qui raconte tout cela. Et pas seulement l'histoire telle qu'elle s'est effectuée au temps des patriarches, mais le modèle de toute histoire qui concerne Israël. C'est cette même problématique et toute la dialectique de rivalité qui l'entoure que les patriarches ont vécu et que nous vivons à l'échelle de la société d'Israël. Je ne sais pas de quoi il faut plus s'étonner. De ce que les textes expliquent tellement les faits, ou que les faits s'entêtent à donner raison aux textes. Mais c'est ça. Peut-être je crois qu'il faut s'étonner d'une troisième chose, qu'on soit là pour les lire. C'est peut-être ça qui est le plus étonnant. Velachem, shalach Abraham et kol banav aherim, minaaret samiyuchedet haï. Vous voyez, déjà là, Judas Lévi insiste comme deuxième critère de la capacité prophétique, le premier, c'est l'anthropologie, la manière d'être homme. Et vous voyez à quel point il faut chercher un vocabulaire précis. Et on aurait pu à notre siècle dire la race, il n'y avait pas encore de problème raciste, mais aujourd'hui on ne peut plus. Et d'ailleurs c'est pas ça, puisque comme vous le savez, n'importe quel homme de n'importe quelle lignée, ou femme de n'importe quelle lignée, peut devenir Israël. Donc ce n'est pas un véhicule purement biologique, mais... Peut-être faudrait-il dire, et là c'est plus clair déjà, il y a un psychisme de l'identité d'Israël. Et ce psychisme apparaît souvent à l'échelle individuelle chez les autres nations, à l'échelle individuelle. Mais, et c'est la Inyana Elokim, mais le cas d'Israël, c'est que c'est la prérogative, la segula, de la collectivité comme telle. Et dans la collectivité comme telle, il peut y avoir des individus où c'est très récessif, presque négatif. Mais c'est ça qui est négatif, pas autre chose. Vous comprenez ce que j'essaye d'exprimer. Un jour, j'avais entendu cette définition de la différence entre un juif athée et un non-juif athée. Apparemment, c'est la même chose, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'un non-juif athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe, alors qu'un juif athée, c'est quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas. Mais ça n'a rien à voir.
Anthropologique.
On a les athées qu'on peut.
Anthropologique, c'est une
culture. Non, c'est plus que ça. Il y a quand même le support des engendrements. ça vient du cœur et des reins, et pas seulement du cœur, les reins. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Hoker Klayot Valev. Mais ce n'est pas biologique, purement. C'est une chose à laquelle il faut vraiment s'habituer. C'était vraiment des données qui allaient de soi à un élève de Talmud Torah du Shérit.